Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Désolé, je suis en retard.
Alors ça t'arriverait pas si on faisait notre podcast dans le métaverse?
Ok. En fait, c'est juste parce que j'ai changé des billets de train sur Internet, c'était tout un truc.
Ah bah ça non plus, hein. Ça t'arriverait pas si tu voyageais dans le métaverse plutôt qu'en vrai?
Ouais, bah c'est sûrement vrai. Bon allez, on commence? On parle de quoi aujourd'hui? On fait vite, hein, parce que moi ce soir, il faut que je parte pas trop tard, j'ai réservé un cours de tennis un peu loin.
Ah bah t'aurais pas besoin de te presser si tu faisais plutôt un match contre un bot dans le métaverse?
Ok, ça suffit, j'ai compris, donc bienvenue dans l'envers du décor, le podcast où on vous parle du métaverse et où on va se demander si c'est un bon calcul ou non pour la planète.
Eh ben voilà.
Moi, c'est Mathieu Balu, journaliste scientifique, qui a récemment découvert la réalité virtuelle avec le casque, les senseurs, les manettes et tout, et j'avoue, c'est pas mal. Et je suis avec...
Grégory Rosière, journaliste scientifique, qui pensait dès 2015 que la réalité virtuelle, c'était l'avenir. Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri sélectif, bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et vous avez franchement raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes, et peut-être même les solutions qui vont avec.
Mais puisque la planète va mal, justement, pourquoi ne pas nous réfugier dans une planète B?
Mais tu sais bien que there is no planet B.
That's right. Par contre, on pourrait aller dans le métaverse. Attends, métaverse ou métavers d'ailleurs?
Je sais pas. Je pense que métavers en français, mais vu que c'est un concept qui va avant tout venir des États-Unis parce que ça sera les GAFA, on va souvent dire métaverse.
Ouais, d'autant qu'il n'y a pas un truc avec les Avengers, etc. Il n'y a pas un genre de truc qu'on appelle le multiverse déjà ou je sais pas quoi, non?
On dit multiverse en français? C'est vrai qu'on dit pas multivers, je pense. Hein.
Ah ouais?
Alors, on va pas préjuger, hein, parce que la dernière fois qu'on a essayé de faire des trucs comme ça, on s'est retrouvé à dire que les variants changeraient jamais de nom, et finalement, le fait est que oui.
Ça, c'était un peu mon idée, hein, j'avoue.
Voilà. Et on dit toujours le Covid, donc nous, on a toujours pas compris. Hein.
Voilà, donc on va se décider peut-être au moins pour cet épisode pour Métaverse, quitte à se faire engueuler.
Voilà, Métaverse, c'est bien, et puis si dans 10 ans, ça sera nul, bah au moins cet épisode sera collector.
On verra bien. En tout cas, le métaverse, c'est bien ce que nous propose Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, pour remplacer ce bon vieux Facebook, justement, où on avait notre profil et qui s'appelle Meta. Parce que pourquoi aller chercher loin après tout, hein?
En fait, Mark Zuckerberg, il est un peu comme nous. Il est un peu nul pour trouver des noms, quoi.
Moi, je suis pas nul pour trouver des noms.
Ouais, c'est moi qui ai trouvé l'envers du décor. Hein.
J'avais oublié.
Bon, en tout cas, plutôt que parler de noms, essayons de parler de concepts et d'expliquer un peu ce que c'est vraiment le métaverse. En tout cas, ce que ça pourrait être. En gros, c'est un univers virtuel, en 3 dimensions et surtout connecté. Pour ceux qui n'y connaissent qu'un, c'est un peu comme si on pouvait prolonger tous les éléments de notre vie. Le travail, les sorties, les voyages, dans un espace accessible sur Internet, où on vit en fait notre vie via un avatar.
Vraiment pas mal raconté. Après, il y en a certains, comme Mark Zuckerberg, avec le fameux Meta, là, justement, qui veulent qu'on soit complètement immergé dans cet univers en mettant sur sa tête un casque de réalité virtuelle.
Alors toi, t'as testé un casque de VR, justement. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Alors là-dessus, j'ai un avis assez tranché, en fait. J'en ai testé un dans un salon chez un copain et j'en ai testé un dans une salle d'arcade. Et en fait, j'étais un peu déçu dans un salon. Enfin, tu vois, on voit à 360 degrés, c'est très sympa, mais je trouve pas ça hyper immersif. T'as tout le temps peur de te bouffer un vase. Alors que quand tu le fais dans une salle d'arcade, en plus t'as des senseurs partout sur toi, etc. C'est extraordinaire. Donc pour moi, c'est un peu l'avenir du jeu d'arcade, et peut-être même un peu plus que ça, mais j'arrive pas encore à l'imaginer. Je trouve ça extraordinaire, mais ça prend énormément de place et pas mal d'argent.
Ouais, je pense aussi que c'est l'avenir du jeu vidéo, mais qu'on n'y est pas encore. Par contre, il y a des jeux vidéo qui sont des sortes de métaverses sans avoir besoin de casque de VR aujourd'hui.
Ça, c'est vrai. Ceux qui jouent au jeu Fortnite, par exemple, ils le savent. Au départ, c'était un jeu de tir, un peu comme tous les autres, mais c'est devenu, avec sa popularité auprès des ados, un endroit où ils se retrouvent pour discuter, pour inventer des jeux ensemble, pour aller à des concerts virtuels organisés dans le jeu aussi, d'ailleurs. Bref, c'est devenu, et depuis longtemps maintenant, hein, un métaverse, justement.
Ouais, un métaverse. Enfin, moi, je t'avoue, quand j'entends ce terme métaverse, j'ai un peu l'impression de voir un buzzword, quoi. C'est un mot qu'on met là pour essayer de faire genre, on fait quelque chose de nouveau. Surtout quand t'es une société de réseau social qui est critiquée et qui risque le démantèlement parce qu'elle a un monopole.
Ça, c'est une interprétation qui est assez partagée quand même.
Bah ouais, surtout que, tu vois, moi j'ai beaucoup joué à des jeux vidéo quand j'étais plus jeune, et notamment à des jeux en ligne massivement multijoueurs comme World of Warcraft, et c'était déjà des sortes d'univers virtuels, tu vois.
Mais ça, complètement. On peut déjà parler de métaverse pour World of Warcraft, mais il me semble, arrête-moi si je me trompe, parce que moi, je faisais pas partie trop de ces joueurs-là, que c'était une partie de World of Warcraft, parce que t'as quand même une grosse partie qui est le jeu assez classique. Et puis, tu as ce qu'on va appeler un peu le côté réseau social de World of Warcraft qui concerne peut-être pas l'intégralité du jeu en lui-même, quoi.
C'est des gens qui se rencontrent et qui jouent ensemble et qui créent des choses ensemble. Après, la différence avec Fortnite, c'est qu'il n'y avait pas trop de rapport avec le réel. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens que j'ai connus dans le jeu, tu vois, mais il n'y avait pas de rapport. Il n'y avait pas des gens qui venaient faire des concerts. En tout cas, c'était pas organisé de la sorte.
Bah ça, c'est intéressant, en fait. C'est que, disons, l'interaction entre virtuel et réel était moins poussée que dans Fortnite. Après, les deux restent un truc cool, un truc coloré, un truc à faire entre amis. En gros, on n'y organise pas les réunions de boulot, quoi.
Encore heureux. Mais par contre, dans Second Life, ça existait, ça. Tu te rappelles de Second Life ?
Ah ouais. Enfin, j'y ai pas trop joué, hein. Je regardais surtout des vidéos.
Ouais, moi non plus.
C'était tellement bizarre.
Bah ouais, mais par contre, c'est quand même un exemple assez pur de métaverse. Hein. Second Life, pourtant, c'est un jeu qui est né en 2003, donc ça date pas d'hier.
Ouais, ouais. Enfin, un jeu, pas tout à fait. Hein.
Bah, ça dépend ce que t'appelles jeu. Hein. Pour toi, les Sims, c'est un jeu ou pas ?
Pour moi, les Sims, c'est un jeu de gestion, ouais.
Bah voilà, bah Second Life, c'est, disons, c'est un jeu dans le sens où c'est un univers virtuel qui est né en 2003, dans lequel tu pouvais faire n'importe quoi dans une sorte de monde pas du tout fantasmagorique ou quoi, c'était vraiment le monde réel, on crée un avatar de toutes pièces qui ressemble à un être humain, on se crée une maison d'humain, on a des activités, on va travailler, on joue à des jeux.
On participe à des orgies.
Oui, bon, effectivement, il y a une profusion de contenu adulte qui est née de Second Life, mais il y avait aussi des réunions professionnelles, de vrais employés avec de vraies entreprises. Il y a même certaines boîtes qui ont construit des succursales dans Second Life. Il y a même des gens dans Second Life qui ont fait fortune, tu sais.
Mais ça, c'est complètement barjo. Il y a des mecs qui ont des îles privées sur Second Life.
Mais ouais, et puis tu sais, il y avait des expos d'œuvres d'art.
Ouais, des orgies aussi.
Des courses de voitures.
Ah oui, et puis des orgies.
Des balades dans la nature.
Exact, et puis je crois qu'il y avait des orgies aussi.
Ouais, je crois qu'on a compris. Ça existe encore Second Life ou pas ?
Ouais, enfin disons que ça vivote quoi. Le jeu est plus officiellement maintenu, mais il y a toujours des serveurs privés. Il y a eu un petit regain à cause du Covid d'ailleurs.
Ah bah c'est sûr que le Covid, ça a donné un coup d'accélérateur gigantesque au projet de métaverse. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Facebook. Microsoft va faire un métaverse avec Teams, tu sais, son application qui permet de faire de la visioconférence.
Mm-hmm.
Et Apple, il préparait aussi quelque chose pour 2022. Et il y a aussi TikTok qui a acheté un énorme développeur pour créer son propre métaverse.
Ah là là, j'ose pas imaginer un métaverse TikTok, c'est trop pour moi là.
Après, je sais pas si ça sera vraiment un métaverse parce que j'ai quand même l'impression que ça devient un peu une sorte de mot-clé gratos qu'on utilise comme ça. Je sais pas si t'as vu là, Peter Jackson, il a vendu sa boîte d'effets spéciaux à Unity, qui est une société qui fait des moteurs de jeux vidéo.
Peter Jackson, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est le mec qui a fait Le Seigneur des Anneaux.
Voilà, et donc bon, il fait des effets spéciaux de fantasy, il vend ça à une boîte qui fait des jeux vidéo, ça semble assez logique.
Ça semble assez logique et je crois que c'est pas le premier à faire un truc comme ça.
Voilà, sauf que là, Unity, donc la société en question, elle a dit qu'elle a acheté ça pour créer son métaverse. Et du coup, bah, y a eu une alerte AFP, des infos de partout, c'était la folie. Donc je pense que ça devient un peu, c'est comme l'intelligence artificielle ou les drones ou la crypto-monnaie, tu vois, voilà.
Alors, buzzword, on peut peut-être le remplacer par mot valise, Greg. C'est mieux.
Voilà, et puis on va dire métavers, du coup.
Non.
Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment une tendance. Et le fait qu'on soit tous retrouvés enfermés pendant des semaines avec les confinements, ça n'a pas ralenti ces projets, ça a même donné des idées.
Ouais, on va pas y échapper, quoi. Si je comprends bien, le futur, ce sera chez nous, en pyjama, à chevaucher des dauphins virtuels au milieu d'un océan virtuel, en faisant la course contre d'autres avatars, donc évidemment virtuels, eux aussi. Alors la facture d'électricité, ça va être un truc. Et je te parle pas de l'impact sur l'environnement, évidemment.
Ah ouais, c'est clair, imagine, si tu passes tout ton temps dans le métaverse, il vaut mieux que t'aies des panneaux solaires sur ton toit, quoi, ou que t'aies souscrit à une offre d'électricité verte si tu veux pas polluer. Hein.
Oh, placement de produit !
Absolument, on vous invite à écouter l'un de nos précédents épisodes pour vous repérer dans les différentes offres des fournisseurs d'énergie verte.
Mais en vrai, c'est pas seulement l'énergie qu'on va consommer, nous, avec nos écrans ou nos casques de réalité virtuelle. C'est aussi, évidemment, l'énergie utilisée par les serveurs qui vont faire tourner tout ça. Et d'ailleurs...
Placement de produits.
Mais comment t'as deviné ? On vous invite à écouter notre épisode sur l'empreinte carbone numérique pour comprendre le vrai poids de nos mails, nos vidéos Netflix, enfin bref, tout ce qui passe par le réseau, quoi. Et effectivement, c'est pas rien, le numérique c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, et si on passe encore plus de temps devant notre écran, ou nos écrans, bah ça peut qu'augmenter. Surtout si on achète des casques de réalité virtuelle en plus, les équipements et les matériaux utilisés pour les construire, c'est plus de la moitié de la pollution du numérique.
Ok, donc effectivement, on va avoir des nouveaux produits, il va falloir acheter encore des objets et on va passer plus de temps à utiliser quelque chose d'électronique, donc qui consomme de l'électricité, donc logiquement, ça fait plus d'énergie, donc plus de pollution, donc plus de gaz à effet de serre.
Voilà.
Mais en même temps, de l'autre côté, est-ce qu'on pourrait pas y gagner quelque chose ? Bon, on met de côté évidemment la question philosophique et de santé de est-ce que c'est bien de rester enfermé dans une pièce pendant des heures à rien faire et à regarder des écrans ? Parce que ça, on est d'accord que c'est pas super.
Non, c'est pas super.
Mais concentrons-nous plutôt sur ce que ça pourrait avoir de bon pour la planète. Est-ce que ça serait pas rentable de rester chez soi pour vivre des aventures virtuelles ?
Alors, c'est pas évident à quantifier ça, mais on peut faire quelques calculs. Par exemple, est-ce que ça vaut le coup d'organiser les réunions professionnelles, les salons, les rencontres, etc. sur le métaverse, donc sur Internet, plutôt que dans la vraie vie ?
Attends, c'est un quiz là ?
Mais la vie est un quiz, Greg.
Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Bah, je dirais que ça vaut le coup quand même, non ? On se déplace pas déjà, donc il n'y a pas de transport polluant.
Bah, t'as complètement raison. Hein. Il y a eu plusieurs études, notamment depuis le Covid, évidemment, et c'est sans appel. En 2020, une conférence en ligne a eu lieu en rassemblant des centaines de chercheurs, et ils ont calculé que si leur conférence elle avait été organisée en physique, à San Francisco, où étaient basés les organisateurs, la conférence elle aurait été 66 fois plus polluante.
Ah ouais, 66 fois plus polluante. Mais ça, j'aurais pu le deviner, ça aurait pu être un quiz.
Ouais, mais je me suis dit 66, tu vois, tu serais jamais tombé dessus par hasard, quoi.
Ouais, mais j'aurais pu essayer. Donc c'est vachement mieux de faire ça en virtuel, quoi. Après, on pouvait aussi juste s'appeler, sinon hein, ça serait encore mieux. Enfin, je veux dire, à quel moment on a besoin d'avoir des visios et d'avoir un fond d'écran derrière, et bientôt d'avoir un casque et d'être dans un univers avec des dauphins pour juste faire une conférence, quoi.
Quoi, t'es pas content que tes collègues ils puissent te voir en vieux t-shirt et en calbar en train de boire un café alors qu'il est déjà 11h ?
Tu vois, c'est l'exemple même de l'effet rebond. Tu te rappelles, on avait abordé ça lors du podcast sur...
L'empreinte carbone numérique.
Exactement. C'est-à-dire que là, d'un coup, on a une activité virtuelle donc qui pollue moins, mais on en fait plus et on rajoute des choses. Donc plutôt que de s'appeler, on commence à avoir une image derrière et puis après, on rajoute des fonds d'écran et bientôt, on va avoir notre casque, on va avoir un univers avec des dauphins. Donc on en fait toujours plus.
Ouais, et puis surtout, c'est vachement intrusif, quoi. Moi, j'aime pas. Hein.
Bah ouais, c'est clair.
Cela dit, dans tous les cas, hein, que ce soit par téléphone, par vidéoconférence, etc., le virtuel, eh ben, c'est mieux que le présentiel niveau pollution. Après, dans le métaverse, comme on l'a dit, hein, on fera pas que bosser.
Ah bah non, hein. Et là, c'est vrai que c'est plus difficile à calculer parce qu'on a tous des activités différentes, des loisirs différents.
Ah, grave. Moi, en général, ce que j'aime bien faire, c'est relire tout Chateaubriand, par exemple, tout en faisant un sport extrême, tu vois, du genre Formule 1 ou kitesurf. C'est vrai que j'y passe pas mal de temps.
Ouais, t'es sûr que tu rouilles pas plutôt devant ta console et que tu fais juste des belotes dans une maison de campagne ?
J'avoue, c'est littéralement tous mes hobbies, en fait.
Ouais, du coup, pour toi, ça changerait pas grand-chose.
Sympa, le mec.
Et encore, tu vois, parce que, mine de rien, faire une belote, aller dans ta maison de campagne, tout ça, ça a un coût. Tu vois, il y a un analyste spécialisé dans l'environnement qui a publié un article en avril dernier. Dedans, il a comparé le coût carbone d'une activité sur le métaverse, par exemple une randonnée virtuelle à la montagne, avec le coût carbone de la même balade, mais dans la vraie vie. Et devine la conclusion.
Ok, alors à moi de répondre à un quiz. La randonnée, c'est quand même l'une des activités les moins polluantes. Globalement, on a surtout besoin d'une paire de pompes, quoi. Donc je me dis que pour le coup, c'est quand même mieux pour la planète d'aller prendre l'air, quoi. Non ?
Eh ben, pas tout à fait. Hein. Rien que le trajet que tu vas faire en voiture pour rejoindre le chemin de rando à quelques kilomètres de chez toi, même si tu roules à l'électrique, en fait, c'est beaucoup plus en empreinte carbone que des heures de jeu en ligne, par exemple, ou de balade en ligne.
Ah, mais ça, c'est dingue, en fait.
Et il y a pire. Le même auteur, il a calculé qu'en cuisinant un gâteau, que tu mets une ou deux heures au four, tu dépenses autant d'énergie qu'un joueur sur sa PlayStation 4 qui utilise un serveur distant pendant toute une après-midi.
Ok. Moi, je suis assez gâteau au chocolat et 4 quarts, personnellement. Et toi ?
C'est quoi mon gâteau préféré ? Alors, j'aime bien les gâteaux au chocolat. Alors, moi, je fais peu de gâteaux. Moi, j'aime bien le Paris-Brest, voilà. Mais j'en fais pas un.
Ah non, moi non plus. Paris-Brest, ça s'achète en pâtisserie, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais du coup, on n'en fera plus, puisqu'apparemment, jouer à la console, ça consomme beaucoup moins.
Ou alors, on pourra faire des gâteaux virtuels.
Ouais, ça c'est génial. C'est pas du tout terrifiant comme concept.
Il y a quand même un truc qui doit moins consommer en vrai qu'en ligne, c'est la lecture, je pense, non ?
Ça, pour le coup, probablement, parce que même avec une liseuse, ça doit quand même pas consommer grand-chose. Tu lis quoi en ce moment, toi ?
Dune. Tu sais, j'ai vu le film et du coup, ça m'a donné envie de relire cette œuvre incroyable. Et toi, tu lis quoi ?
Je lis le livre de Dave Elhom sur les cœurs et la droite depuis 2012. C'est très chouette et c'est très sanglant.
Ok, super. Du coup, comme je le disais, le métaverse, si on y travaille et qu'on y vit nos loisirs, c'est meilleur pour la planète qu'en vrai. C'est quand même super réjouissant, non ?
Pas du tout, hein. Mais tu sais, le pire, c'est qu'en allant tout simplement pas dans la nature, eh ben en vrai, on lui fait du bien. Selon un professeur américain...
On mettra bien sûr les sources du podcast dans l'article qui l'accompagne.
Évidemment. Donc, il y a un prof américain qui disait que l'homme s'était devenu un architecte de la nature et qu'il l'avait remodelé pour le servir. Mais là, s'il évite au maximum de la contraindre à se plier à ses désirs, eh ben la nature, elle reprend ses droits, tout simplement.
Ouais, et vu qu'on est en pleine sixième extinction de masse, ça serait peut-être pas du luxe. Hein.
Bah voilà.
Et il n'y a qu'à prendre l'exemple de Tchernobyl pour voir que dès qu'on lâche la bride à la nature, elle prospère. Tu sais que c'est devenu une réserve naturelle foisonnante, tout ça parce que les hommes n'y mettent quasiment plus les pieds.
J'avais vu ça, et c'est pas si étonnant en fait. On peut pas vraiment dire qu'on respecte le milieu naturel où on vit en général, enfin je veux dire, ça se saurait quoi.
Alors attends, je résume. Le métaverse, déjà ça permettrait de moins polluer, d'émettre moins de gaz à effet de serre parce que ça consomme moins d'énergie de faire des activités en virtuel plutôt qu'en vrai.
Exactement.
Et en plus de ça, en arrêtant de se balader un peu partout, on laisserait un peu tranquille la nature, ce qui permettrait à la biodiversité d'être préservée et de ne pas s'éteindre.
Et voilà, et le troisième effet qui se coule, et le plus étonnant franchement, c'est que le virtuel, ou le métaverse, il peut nous apprendre le respect de la nature.
Alors attends, donc là t'es en train de me dire qu'un truc totalement virtuel avec des casques qu'on fabrique nous-mêmes via des industries peut nous apprendre le respect de la nature.
Mais je sais, c'est dingue. Une étude a montré que si on plonge quelqu'un dans la fragilité d'un milieu naturel avec un casque de réalité virtuelle, tu vois par exemple, tu visites un océan avec des espèces protégées, des espèces en voie de disparition ou une abysse, eh ben tout ça, ça le rend beaucoup plus sensible à la protection de l'environnement qu'un simple documentaire projeté sur un écran de télé.
Ah mais tu vois, moi ça me fait penser à un truc quand même, c'est que j'avais fait une expérience de VR où j'étais sous l'eau et je voyais des baleines, des animaux passer, et c'est vrai que t'es vraiment dedans quoi en fait.
Mais grave, mais comme je vois déjà comme certaines simulations auxquelles je peux jouer moi sur ma console sont crédibles, je sais pas si tu connais un jeu qui s'appelle Abzu.
Non.
Abzu c'est incroyable, c'est vraiment tu te balades dans les fonds marins, c'est vachement poétique, il y a des musiques d'un coup qui se déclenchent, t'as vachement conscience de la fragilité des fonds marins, c'est un jeu très contemplatif et en même temps très pédago parce que tu peux zoomer sur certaines espèces, ça donne les noms, etc., les noms scientifiques, c'est vraiment vachement intéressant et c'est vachement beau. Et donc en VR avec une expérience comme ça hyper immersive, je peux très bien comprendre que ça t'enseigne la notion de fragilité d'espèces à protéger.
Beaucoup plus qu'un simple film classique en fait.
Exactement.
Donc attends, si je résume, non seulement le métaverse c'est bien pour la nature parce qu'en fait on arrête de l'embêter et on arrête de polluer, mais en plus ça nous permettrait de mieux apprécier la nature et donc de mieux vouloir la protéger. C'est une sorte de cercle super vertueux quoi.
Et ouais, c'est dingue hein. Ça a un côté presque déprimant, c'est mieux pour la planète qu'on soit coincé comme des sardines. Mais pour nous, je t'avoue que... Enfin, tu vois, l'idée qu'on soit dans nos petits box, d'accord, laissant l'environnement tranquille, ça me rappelle un peu Matrix quoi, c'est pas très tentant hein.
Ouais, mais en même temps, tu vois, Matrix, quand tu réfléchis, ils n'avaient pas l'air contents, les habitants de la Matrice, dans Matrix, tu vois. Enfin, parce qu'on imagine toujours le monde extérieur qui est tout pollué, tout dégueulasse, avec ces machines qui nous ont réduits en esclavage. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'on est dans nos petites bulles comme ça et qu'on vit un monde virtuel et qu'en fait, derrière, c'est luxuriant, c'est la forêt, c'est génial, tu vois, avec des machines gentilles qui font des sourires.
Bah, ça peut marcher, mais rappelle-toi que Neo, il était employé de bureau dépressif, quoi. Après, il se rendait pas compte qu'il était dans la Matrice.
Bah oui, il était employé de bureau dépressif juste parce que il jouait à un jeu où il avait une vie pourrie, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que pour le coup, quand il comprend les règles, qu'il comprend qu'il est dans un univers virtuel, et bah là, il devient un ninja ultra rapide, capable de voler, et en fait, c'est trop cool.
Bah ouais, voilà, parce qu'en fait, on peut tout faire dans la Matrice comme dans le métaverse, quoi.
Ok, là, ça devient quand même tentant. Cela dit, dans le métaverse de Facebook, on va être assez clair, il va y avoir des limites. On pourra peut-être voler comme Neo, hein. Par contre, niveau orgie, ça va être assez calme.
Ouais, mais c'est pas le pire ça, tu vois. Le vrai problème, c'est que Facebook, c'est un business, tu vois. Donc leur métaverse, il sera forcément de une plein de pubs, de produits dérivés, et surtout, bah tu sais que Facebook, leur but, c'est de te garder accroché, attentif tout le temps, de créer de l'attention. Donc en fait, je pense que ce métaverse, il va surtout essayer de créer de l'addiction, quoi.
T'es en train de me dire que ce sera un peu le Candy Crush de l'univers virtuel, quoi. Un truc pas du tout satisfaisant, mais t'y reviens tout le temps, en fait.
Voilà. Et du coup, moi, je trouve pas ça très réjouissant, tu vois. Donc peut-être que le métaverse, dans l'absolu, ça pourrait être une bonne solution et ça pourrait même être cool à vivre, mais j'y crois moyen là.
Pour résumer, en gros, ce sera pas pour qu'on rêve ou qu'on participe à des orgies, ce sera juste pour qu'on consomme, quoi.
Bah, c'est le risque. Mais par contre, imagine un peu demain, tu vois, donc dans longtemps, quand on n'aura pas seulement un casque de VR, mais qu'on peut simuler aussi les odeurs, les toucher, enfin tous les sens, quoi. Si ça se trouve, on sera aussi heureux que dans le réel. Peut-être que physiquement, on vivra pas grand-chose, mais ce sera pour y gagner une vie virtuelle incroyable, hyper riche, dont jamais les générations précédentes n'auraient pu rêver.
Ouais. Alors, j'adore la dystopie, hein. J'en lis beaucoup et vraiment, c'est un truc qui m'attire. J'écoute plein de podcasts de science-fiction dystopique, justement, mais je sais pas.
Non, mais là, c'est pas dystopique, c'est utopique, du coup, non ?
Ouais, je sais pas. Justement, c'est un peu au croisement des deux.
C'est vrai.
À la limite, tu vois, dans des centaines d'années, ce sera tellement sophistiqué qu'effectivement, on fera plus la différence entre le vrai monde et le monde virtuel. Mais pour le moment, tu sais, c'est un peu comme l'histoire de la Vallée de l'Étrange, quand tu vois un modèle en 3D d'une personne. Peut-être que vous connaissez ça, vous qui nous écoutez. Il y a un phénomène très connu d'amélioration de la technologie et du réalisme en 3D, c'est-à-dire qu'un visage, quand il est fait juste avec trois triangles, c'est OK, on est au courant que c'est faux, donc ça va. Et quand il y a un visage qui est très 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 bien fait, ben on le distingue plus d'un vrai humain. Mais quand on est au croisement des deux... On est un peu dans cette période-là, d'ailleurs, dans la 3D des jeux vidéo. Ben c'est très bizarre.
C'est ça, parce qu'en fait, on voit quelque chose qui semble proche, mais on sait que c'est pas vraiment ça. Donc en fait, notre cerveau, il se dit, il y a un truc de bizarre sur ce que je vois là, c'est pas vraiment un humain. Et il bug.
D'ailleurs, j'ai lu une phrase trop intelligente là-dessus, je crois que c'était sur Reddit il y a quelques jours. Quelqu'un qui s'interrogeait sur le pourquoi justement de cette vallée de l'étrange. Pourquoi est-ce que ça nous inquiète à ce point-là ? Et c'était une phrase du genre, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité pour que notre cerveau, quand il tombe sur un visage qui est presque comme nous, mais pas tout à fait comme nous, il est terrifié ?
C'est une bonne question. En tout cas, il y a eu plusieurs études. On vous mettra en source, d'ailleurs, on avait fait des articles sur cette vallée de l'étrange. Il y a eu plusieurs études pour essayer de comprendre pourquoi ça arrive et comment ça arrive.
Ok, mais j'aime bien mon explication que ce serait genre des extraterrestres qui seraient camouflés parmi les humains il y a des milliers d'années et qu'on aurait eu une grande guerre, tu vois.
Oui, Mathieu, mais vu qu'on est dans le service science du HuffPost, on va quand même mettre des sources scientifiques. En tout cas, justement, cette vallée de l'étrange, ça nous montre que ce métaverse, même s'il existe dans quelques années, bah, il sera quand même... beaucoup moins complexe, infiniment moins complexe que le vrai monde.
Le monde virtuel, pour le moment, c'est sûr qu'il est beaucoup moins complexe et beaucoup moins riche aussi que la vraie vie. Et d'ailleurs, rester dedans, y passer beaucoup de temps, y passer même une majorité de sa vie, ça comporte de vrais dangers. Et ça, on s'en est aperçu déjà il y a longtemps. En fait, les gens qui ont théorisé le métaverse total, ils écrivaient déjà des choses dans les années 80. Ça a déjà été imaginé avec les débuts de l'informatique grand public. Et ils ont vu que ça marchait pas. Depuis, il y a eu des études sociologiques et scientifiques qui ont eu lieu sur les gens qui ont vraiment vécu dans les métaverses. Dans un bouquin de 2012, un psychiatre de Stanford expliquait que la vie virtuelle à haute dose, elle nous isole dans notre être à un point incroyable, au point où on ne ressent même plus l'intérêt de nouer des relations avec de vrais humains. On se crée une bulle, tu vois, une bulle qui peut devenir complètement hermétique en fait.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà aujourd'hui avec les jeux en ligne par exemple. Évidemment, on va pas généraliser. Moi, j'ai beaucoup joué à ces jeux-là et j'ai rencontré des gens, ça m'a plutôt ouvert une vie sociale. C'est des gens que j'ai rencontrés en vrai qui sont encore mes amis aujourd'hui.
Évidemment, on va pas trop généraliser. Il y a une vraie richesse dans le jeu en ligne et dans la vie en ligne.
Là, on parle de cas extrêmes. Par exemple, il y a ces fameux hikikomori au Japon. C'est des ados ou des adultes d'ailleurs qui ne sortent vraiment littéralement plus de leur chambre. Ils vivent dans un monde virtuel.
Ah oui, c'est terrible, il y a eu des documentaires là-dessus, c'est très parlant justement sur le danger de cet isolement prolongé.
Sans même parler des problèmes de santé que ça implique, quoi.
Évidemment. Nous projeter en fait dans un monde entièrement virtuel, eh ben c'est quand même nous désensibiliser au réel. En plus, il faut être honnête, pour le moment, on va pas remplacer nos activités et nos loisirs en les vivant dans le métaverse, c'est pas vrai ça. On va les additionner. Je vais pas me dire, je vais faire un tennis virtuel, donc je vais plus faire de tennis dans la vraie vie.
Comme on disait tout à l'heure, pour l'instant, on est plutôt sur un effet rebond, c'est-à-dire qu'on a quelque chose en plus qui peut-être coûte moins, mais qu'on va juste rajouter.
Exactement, on va additionner le loisir au loisir ou le travail au travail, donc on va alourdir encore plus la facture pour l'environnement.
Alors le métaverse à haute dose, même s'il peut avoir plein de vertus pour la planète, il ne faudrait pas qu'il envahisse tout notre écosystème. Et à l'avenir, espérons qu'il divise notre empreinte carbone plutôt qu'il ne la multiplie.
Remplacer les réunions physiques par des avatars de dauphins en 3D, découvrir le Kilimandjaro en réalité virtuelle plutôt qu'en vrai, ou chasser le bison pour de faux dans son canapé, tout ça, c'est contenu dans les promesses du métaverse.
Et tout ça, c'est plutôt très bon pour la planète. L'énergie nécessaire pour nourrir les serveurs et même les matériaux à utiliser pour renouveler le matériel de notre salon, tout ça n'égalera jamais nos atteintes quotidiennes à la nature.
Mais si vivre dans notre salon, c'est laisser respirer la nature, nous ne pouvons pas pour autant nous passer d'elle. La nature dehors, c'est le réel. Et pour l'instant, aucune réalité virtuelle, même augmentée, ne changera cet impératif. Trop vivre dans le métaverse qui vient, c'est perdre une part de notre aptitude à nous lier avec le monde qui nous entoure. Du coup, allons-y avec prudence.
Alors, on va vous laisser chercher quel sera votre avatar dans le monde virtuel de demain. N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre neveu qui passe ses nuits sur Fortnite ou avec votre voisin qui hésite à tenter l'ascension du Mont Blanc.
Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée et laissez-nous un commentaire. C'est gratuit et c'est virtuel, donc c'est cool. Vous pouvez aussi nous écrire, l'adresse c'est l'envers du décor, l'envers avec un T, @ufpost.fr. À la prochaine.
Salut.